Une terre ouverte à toutes les inventions de l'ancien monde, mais capable de les transformer en une promesse d'avenir. Et puis, Freud a envie de voir des porcs épics. C'est donc avec enthousiasme qu'il prononce ces 5 conférences. Le lecteur français découvrira une nouvelle fois, un peu déçu sans doute, qu'en arrivant devant la statue de la liberté, Freud ne prononça pas cette phrase « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». C'est en effet Jacques Lacan qui la lui attribue en 1955 à l'issue d'une conversation avec Jung, lequel, sans doute, l'a inventée. Le mythe de la propagation de la peste est donc lacanien et français. Et pourtant, il répond fort bien à l'image que les idéologues du Nouveau Monde se faisaient de la doctrine freudienne au début du XXe siècle. Dans l'instinct sexuel, auquel Freud accorde une place démesurée, il voyait en effet une force démoniaque, semblable à une épidémie et capable de détruire l'Amérique de leurs rêves. Après avoir longuement réfléchi à cette confrontation avec les élites des professions libérales et universitaires de la côte Est, Freud décide de ne rédiger aucun texte. Il improvise et livre en allemand à ses auditeurs médusés une lumineuse synthèse de sa doctrine qui, à l'époque, n'est ni aussi complexe qu'elle le sera plus tard, ni déjà recentrée sur la question de la pulsion de mort et de la métaphysique. 5 matinées, du mardi au samedi, sans notes, ni texte. Un véritable tour de force. À Worcester, il parle donc de l'interprétation des rêves, de l'hystérie, de la technique de la cure, de la sexualité infantile, du refoulement. En fait, ces conférences illustrent le talent pédagogique de Freud. Pour bien expliquer les fonctions respectives des 3 concepts dans sa théorie, il évoque la possible présence d'un « gêneur » ou motion de désir venant perturber le déroulement de ses conférences. Si un tel événement se produisait, les personnes présentes dans la salle, les résistances, ne tarderaient pas à se manifester pour chasser ce gêneur de l'amphithéâtre. Il s'agirait là d'un refoulement qui permettrait que le cours puisse se dérouler paisiblement. Mais une fois dehors, le perturbateur pourrait fort bien faire encore plus de bruit et perturber le conférencier et ses auditeurs de manière différente, mais non moins insupportable. Tel est bien ce que Freud appelle le symptôme, une manifestation déplacée de la motion inconsciente refoulée. Freud compare alors le psychanalyste à un médiateur qui serait capable d'entrer en négociation avec le perturbateur afin qu'il puisse revenir dans l'amphithéâtre après s'être engagé à ne pas déranger les auditeurs. La tâche du psychanalyste est donc de reconduire le symptôme vers le lieu d'où il vient, c'est-à-dire vers l'idée refoulée. La métaphore du gêneur fut parfaitement entendue. La conférence de Freud du vendredi après-midi fut en effet perturbée par l'intrusion d'Emma Goldman, la célèbre anarchiste américaine, accompagnée ce jour-là de Ben Reitman, le roi des clochards. Unanimement appréciée, les 5 conférences de Worcester reçurent un accueil triomphal dans la presse locale et nationale. Dans un bel article, Stanley Hall, président de l'université, qualifia de neuves et de révolutionnaires les conceptions freudiennes. Pour Freud, ce moment marqua la fin de son isolement. En fait, il avait rédigé ses conférences pendant tout l'été 1909 et sans doute les avait-il appris par cœur. « Je n'avais à l'époque que 53 ans, dira-t-il plus tard. Je me sentais juvénile et bien portant. Ce bref séjour dans le Nouveau Monde fut d'une manière générale bénéfique pour mon amour-propre. » Freud conquiert donc le Nouveau Monde. Quelques années plus tard, la psychanalyse devient la cure mentale la plus populaire du continent américain. Elle balaie les vieilles doctrines somatiques, s'implante en lieu et place de la psychiatrie, tourne en ridicule les principes de la morale civilisée et suscite l'enthousiasme des classes moyennes. On comprend alors la fureur qui se déchaînera par la suite contre cet Européen pessimiste, peu enclin à adhérer à l'axe du bien et du mal en matière de sexualité. N'a-t-il pas, en 1909, osé semer le trouble dans la conscience persécutée des puritains? En réalité, la psychanalyse ne favorise ni la répression de la libido, ni la croyance en son caractère bénéfique.